Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut Pissa, mais soyez les bienvenus, chères grandes oreilles de la Radio J. Nous allons ce bon matin surfer sur les ondes de ma chronique « Fais-moi une place, mort mira platzl dans ma Muttersprache ». Une chronique tous les mercredis matin à 11h30 et rediff le dimanche à 12h30. Une trentaine de minutes à peu près pour apprendre à mieux connaître mon invité surprise. Et ce matin, Müller, tu as invité qui ? Un sportif de haut vol, il est basketteur strasbourgeois, joué sur tous les parquets du Mans, à Paris, à Bruxelles et surtout à la SIG. Olivier Weissler est un arrière-shooter, un des meilleurs marqueurs français. Il est chez nous ce matin et quelle chance de l'accueillir dans notre studio. Bonjour Olivier. Salut, comment vas-tu ? Très content de partager ce moment avec toi ce matin. Comment tu vas ?
Moi également André, je te remercie.
On a de si bons souvenirs ensemble.
C'est vrai, ça fait plaisir de te revoir, de remémorer un petit peu.
Et surtout de t'inviter chez nous à la Radio Judaïka. Moi, j'invite souvent des sportifs un peu, des gens qui viennent de tous les mondes. Mais aujourd'hui, j'ai un grand sportif de grand niveau. Alors, dis-moi, tu es toujours sur la planète basket, mais plus comme joueur, hein, je crois.
Non, c'est ça. Je m'occupe depuis 12 ans. Je suis directeur du centre de formation.
Et ça veut dire que tu formes les jeunes, tu les récupères, tu les trouves ou comment...
C'est-à-dire que on forme un staff, donc on est sur toute une partie de recrutement, d'accompagnement, de développement et puis d'accompagnement sur le plan sportif, sur le plan de l'organisation de vie, sur le plan scolaire. Et on accompagne ces jeunes basketteurs pour les amener au plus haut de leur niveau possible. Et bien évidemment, on espère qu'ils soient le plus haut possible et... Et le Graal, c'est quand ils mettent les pieds
sur le parquet,
avec l'équipe pro.
Comme toi, c'est un peu ton parcours qu'on va un peu résumer maintenant en 28 minutes. Alors, moi je me souviens, j'étais en mi-janvier, là, pour la reprise, j'ai vu un match contre Gravelines, mais c'était un match de folie des scores 89-72. Gravelines était tétanisé, Strasbourg, la SIG, au début un peu cafouillé, mais à la fin, ils ont explosé, c'était extraordinaire.
Bah, c'est une équipe complète, très dangereuse sur les parties arrière, avec des menaces dans le tir extérieur, avec une belle équipe très bien répartie cette année, avec des joueurs role-players aussi qui acceptent de jouer ce rôle-là et qui aiment le faire. Ça fait qu'il y a une symbiose dans cette équipe. Elle est extrêmement bien coachée, elle a été mise en place... par l'ensemble du staff, directeur sportif. Et puis, pour l'instant, on surfe sur les bons résultats. Et
génial.
Que ça dure, ouais, super.
C'est chouette, c'est beau. Alors c'est ça aussi le basket, des matchs à suspense remplis d'émotions. Le basket, c'est aussi très spectaculaire, hein, on peut le dire, hein, pour le spectateur. Hein.
Ouais, bah, c'est un sport qui vit, qui a des surprises... chaque carton qui est spectaculaire, qui est, il faut de la finesse avec de l'adresse, il y a de la ferveur avec le public forcément. Et puis,
je crois aussi qu'il faut une très très bonne condition physique, être rapide, observer, avoir l'œil vif et même une main très agile, hein, pour tenir ce ballon là qu'on a devant nos yeux.
Hein. C'est vrai. La partie technique est très importante, mais il y a la partie mentale, la partie collective. Il y a la partie de mise en place par le staff et le coach. Donc, c'est un ensemble qui quand il joue à son meilleur niveau, eh ben, est très spectaculaire. Et je pense que pour l'instant, en ce début de saison, mi-saison, ben, on est très gâtés de les voir opérer.
C'est aussi mérité, hein, c'est pas, ça tombe bas du ciel, c'est mérité les scores. Quand on a le vent en poupe comme ça.
Tout à fait.
Alors, raconte-moi un peu, toi, tu as joué longtemps à la SIG, Olivier Weissler ? Tu as. On va pas en venir en pro A maintenant.
Ah, en pro A ?
Ouais, tu as longtemps joué là-bas.
Alors, j'ai joué. Mes 13 ans de carrière sont équilibrés entre. 6 ans de Pro A et 7 ans de Pro B. Et puis, j'ai joué donc, pendant ces 13 années à la SIG, à de 1990 jusqu'en 1999.
Ouais, extraordinaire. Alors, je sais que tu es un shooter arrière. C'est celui à l'arrière qui marque les paniers à trois points, alors ? Comment ça se passe ?
Ben, c'est-à-dire que oui, j'avais cette spécificité-là. Alors, c'est vrai que tout le monde retient celle-ci. Moi, j'espère que j'en avais d'autres. mais effectivement, c'est quelque chose où j'étais plutôt efficace et rentable dans... dans les meilleurs joueurs avec un haut pourcentage, puisque j'avais la particularité de pratiquement shooter mes 80% de mes tirs, c'était à 3 points.
Ouais,
donc j'avais aussi cette faculté à tirer un grand nombre de fois, et forcément, ce qui pouvait avoir un bon pourcentage en shootant beaucoup. C'est forcément aussi une arme dans une équipe.
Ouais, bien sûr.
J'en ai fait mon fonds de commerce, on va dire.
C'est pour ça que tu as été connu aussi, on t'a reconnu pour ça aussi, c'est vrai.
Oui, alors, tout à fait.
Alors, Olivier, j'ai une autre petite question à te demander. Il faut avoir des grandes mains pour envelopper ce ballon. Et bon, trouve voir tes mains, est-ce qu'elles sont immenses, tes mains ? Ah ouais, t'as des grandes mains quand même, si, et des longs doigts. Et pour shooter dans ce panier à course, parce que moi j'appelle ça un panier à course là-haut qui est suspendu, parce qu'il y a un ballon et un panier à course en fait.
Ah bon ? C'est la première fois que j'entends ça ?
C'est du Muller, hein, tu me connais.
Ouais, c'est du André quoi. Ok.
Alors dis-moi, oui, il faut pour envelopper ce ballon, tu as des mains quand même assez impressionnantes, il faut le tenir. Là on a un ballon qui vient de la SIG, hein. C'est un cadeau qu'on m'avait fait à l'époque. Christian Moncho m'avait offert ça quoi, sur le parquet. Il m'a dit tiens, ça c'est pour toi. Et tu vois, je l'ai toujours et je l'ai toujours.
Eh ben, il est encore en bon état, hein, figure-toi. Hein.
Avant que tu l'aies en main, je l'ai ciré tout à l'heure.
Ouais, tu vois. Il est vintage, mais...
Ça n'existe plus hein, comme ça ces ballons-là n'existent plus.
Si, ils existent encore.
Sur la NBA, on appelle ça comment ? On les appelle comment ? C'est pas un ballon là-bas. C'est non ? Il n'y a un autre nom ? Non, c'est ballon.
Ouais, okay, ball.
À ball, ouais, c'est vrai.
Et pas là-là, quoi.
Mais alors, avant de continuer de parler un petit peu de ta carrière, j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière, rembobiner ta vie à l'aide d'une manivelle, ces séquences émotions. Alors, dis-moi un peu, Olivier, quel enfant étais-tu ? Est-ce que tu étais sage comme une image ou turbulent qui ne tenait pas en place ? Raconte-moi ça.
Je pense pas que j'étais sage comme une image, c'est certain. Plutôt volubile, à vouloir bouger tout le temps, jouer avec les copains. Ça c'est dans mon enfance, mais après c'était toujours très active, très sportive. J'ai jamais vraiment tenu en place, ni vraiment
déjà tout petit, déjà gamin, tu avais besoin de bouger. Tu pouvais pas rester assis à ton bureau ou alors à ta table.
C'était
difficile.
Être à mon siège sans bouger, c'était...
Ça, pour moi, c'était dur aussi.
Encore
aujourd'hui, pour moi, c'est pareil. Ouais. Alors, raconte-moi, Olivier, tu as grandi dans quel quartier de Strasbourg ?
Alors moi, mes parents sont originaires du Neudorf, mais on est une fratrie de quatre, donc...
Quel coin du Neudorf, à côté du Polygone, là-bas, dans ce coin-là ?
Ça, c'était... On était à Rue des Roses au Neudorf, et puis mes parents ont construit au Neuhof, près du Polygone. Et quand je suis arrivé au quatrième, donc, moi je suis né dans la maison en fait. Et voilà, j'étais au Polygone, et puis mes parents ont construit dans cet environnement-là.
D'accord. Alors quand tu étais jeune, tu jouais aussi au Lego avec tes frères et sœurs ?
Au Lego, non, j'en ai pas spécialement le souvenir. J'ai plutôt le
avec
souvenir de jouer avec...
des pinces à linge ?
Avec, ah, mais alors là, c'est très petit. Mais sinon, moi, j'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi.
Ouais.
Et on partageait la même chambre. Alors, je me souviens plus trop.
D'accord.
Entre moins de 10 ans.
Parce que tu jouais, quoi.
J'étais plutôt axé sur la musique parce que mon frère
déjà
était...
Déjà tout petit, t'écoutais de la musique ?
Non, je veux dire après 10 ans.
D'accord.
Après 10 ans.
Après 10 ans. On va juste écouter un petit extrait de musique pour voir si c'est un peu de ta génération, ça. Vas-y voir, Thomas. Alors, t'es de la génération Casimir ?
Ben oui, forcément ça passait à la télé, et puis quand j'étais petit, ouais, je me souviens de ça. J'en ai pas un souvenir très imprégné, c'était plutôt Goldorak pour moi.
Ah c'est ça, oui, scotché, force rouge, force
ouais,
bleue.
Ouais c'est ça, plutôt scotché le mercredi...
Dorothée, là, le club Dorothée. Ouais, c'était ça, je crois.
Ouais, c'était ouais, ouais. ça, mais plutôt les spécifiques de bande dessinée de ce type-là.
D'accord.
Mais bon, je n'ai pas spécialement resté scotché dans le salon.
Ouais, oui, c'est ça.
On sortait vite en plein air.
En
et
plein
puis,
air, aller dehors et jouer, quoi.
Et jouer ouais. au foot ou ouais, ouais. avec
ou
les copains.
Ou peut-être déjà au basket, ouais. Alors, dis-moi, ton terrain de jeu, c'était plutôt la rue, dans un parc, tu jouais en bas de chez toi, c'était comment?
Ouais, on jouait en bas de chez nous, on avait un terrain de basket qui était pas très loin, mais j'ai plutôt beaucoup joué au foot en fait.
Ah ouais.
Et c'est mes habiletés en foot qui, à un moment donné, à force de suivre mon père qui était basketteur et qui jouait au basket, j'ai commencé à jouer au basket.
Au basket, oui, mais je te comprends aussi parce que le foot c'est très grand, le basket c'est un petit parquet en fait. Donc t'as moins d'efforts à faire sans doute, t'as moins à courir.
Ouais, c'était pas ça, c'était c'est juste que l'occasion a fait qu'à un moment donné, ça a pris sa passion et moi je n'arrêtais pas de jouer au basket et comme je me débrouillais pas trop mal, quand
c'était
on est gamin,
dans tes gènes, ça vient de ta famille.
Oui, je pense, oui. Et puis mon père était basketteur et puis il nous emmenait au basket et puis à force de tripoter la balle, on jouait avant leur match, après leur match.
Déjà
et
sur
après,
le parquet.
Oui,
déjà
oui, tout à fait. Ouais, en le
c'était
suivant.
Déjà la SIG ou c'était déjà.
Non, moi je jouais à Saint-Joseph-Strasbourg. Mon
ah,
père
oui.
était du Saint-Joseph.
Ah oui.
Et donc, la Cruteno au Cléberès, c'était le club pas trop. Et puis, moi j'ai commencé à 6-7 ans, dans les petites catégories, à commencer le basket au Saint-Joseph-Strasbourg.
Et en fait, les goals de ta vie, c'était le sport, c'était
exactement.
Le sport, un peu les études quand même.
Bon, les études normales,
ouais.
C'est pas, je suis pas...
Entrer de l'école, tu jetais le sac dans un coin comme moi et puis t'allais sortir jouer, quoi.
Pas loin,
ouais,
pas loin.
Moi, c'était comme ça, quoi.
Pas loin, j'ai eu la chance d'être le petit, le dernier de la famille.
Protégé,
donc, les grands étaient, ont été bien surveillés et puis moi, on me faisait confiance. je ramenais pas spécialement des mauvaises notes ni des très bonnes, donc
tu suivais,
tout le monde
voilà.
pensait que ça allait.
Voilà, bah,
et moi, ça suivait son cours et ça m'arrangeait bien.
Tout à l'heure, tu me parlais un peu du musique, alors tu étais plutôt Stones ou Beatles, c'était quoi?
Moi, je suis plutôt Stones, mais...
Attends, on va écouter un extrait. On va voir si c'est bien ça que tu aimes. J'ai compris que tu étais plutôt Stones alors.
La CNG, mais c'est plutôt un slow sur lequel on a pu
faire des booms.
Parcourir quelques plaisirs. mais sinon, la période Stones et Beatles, c'est plutôt mon grand frère qui avait quand même 50 plus que moi, qui était, on était dans la même chambre. Donc la Zizik, c'était plutôt. Moi, c'était plutôt le rock, punk rock, hard rock, toute cette période dont j'ai été baigné dans la chambre. J'étais obligé d'écouter la musique de mon frangin, forcément. Donc, j'ai une culture musicale.
Ça, c'est l'adolescence, en fait. Ça,
c'est l'adolescence, ouais. C'est-à-dire que... Mais j'y suis allé très tôt, donc j'avais 13 ans. 12-13 ans, moi j'ai fait mon premier concert au Walt Tivoli, j'ai vu Téléphone.
Ah oui, moi
ça a été un bouleversement.
Ah,
et
ouais.
J'avais la chance d'aller en concert très tôt parce que j'étais assez grand. Et en fin de compte, grâce à mon frère, j'arrivais à sortir de la maison. Et d'ailleurs, mes parents n'ont jamais su que j'étais allé voir à 13 ans Téléphone ou Walt Tivoli. Hein. Ils s'en sont suivis beaucoup de concerts par la suite. Je pense qu'ils savaient que la moitié. Et tout ça grâce au.
Il fallait pas tout dire. Hein.
Non,
il fallait aussi
bien évidemment.
Avoir des petits secrets. Hein.
Exactement. Ouais, ouais, donc après, il y a eu toute cette période de musique underground dont j'étais attaché. Et on avait un groupe à l'époque. Moi, j'ai commencé la batterie. J'ai fait de la batterie.
Tu jouais de la batterie, ouais.
Ouais, j'ai joué de la batterie. On avait un groupe.
Ah,
hein.
Ouais,
on répétait tous.
Et
les...
Et s'appelait comment ce groupe ?
Alors.
La SIG.
Il y avait. Plusieurs groupes de départ. Il y avait une bande de potes à l'époque où on avait un guitariste qui était exceptionnel.
Ah ouais.
Et nous, on avait juste à le suivre. En fait, on n'était pas très doués musicalement. Mais lui, il était tellement, tellement fort qu'il a réussi dans la musique. Donc, on a pu faire des choses sympas. On arrivait à répéter chez moi, dans la maison. Parce que tous mes potes étaient plutôt en immeuble. Autour. Donc,
heureusement que tu n'avais pas de voisins. Hein.
Ouais, et on en profitait que mon père ne soit pas là, parce que ma mère était très permissive, donc on était cool dans la chambre du haut, et on pouvait jouer. Et puis par après, j'ai fait aussi on a aussi eu un groupe à l'époque avec des basketteurs, avec Gilles Aucancé qui faisait de la basse.
Aucancé, les deux frères Aucancé, on se souvient bien d'eux avec leur maman,
Exactement. Très Hugues bien. Était un excellent batteur et Gilles était un bon bassiste. Bassiste, pardon. Et on faisait un groupe et on avait à l'époque le médecin Michel Bams, qui était notre médecin, qui faisait de l'harmonica de la guitare.
Wow.
Et on répétait une fois tous les 15 jours dans la cave d'une maison d'un joueur de la SIG.
Alors, tu parlais tout à l'heure du Tivoli, où tu as écouté la première fois le concert de Téléphone. Mais le Tivoli, c'est aussi ta maison, c'était ton parquet. Vous vous entraîniez là-bas, vous jouez de temps en temps là-bas hein,
On s'entraînait tout le temps là-bas.
Tout le temps.
On jouait tout le temps là-bas. Toute la semaine, on était là-bas et on jouait, je ne sais pas, je pense qu'on a joué 5 ans avant la migration vers le Runis Nord. Mais c'était les gens adoraient hein, le Tivoli
hein.
Parce que quand
bien.
Il était plein,
il y avait une ambiance. Et puis on était tout près du parquet, quoi.
Exactement.
Hein.
C'était.
Moi, je me souviens de vos entraînements. Il y avait
en haut les
paniers qui étaient en haut, en hauteur. Et moi, je prenais une échelle pour monter. Tu te souviens? J'étais de temps en temps scotché là-haut, filmais en contre-plongée.
On se demandait quel énergumène était là-haut.
C'était le Muller, il était fou.
Il y avait toujours un brin de folie chez toi.
Ouais, tout le temps. Mais ça n'a pas changé. Hein.
Ouais, c'est ça qui était chouette en fait. Mais il y avait cette complicité avec les gens qui venaient souvent. Hein,
Moi je venais souvent.
Les mêmes journalistes.
Je faisais tous les entraînements, je faisais avec vous.
Bien sûr.
Après on était à Bellinzona avec vous, on était même faire des Coupes d'Europe où je me souviens plus très bien, mais on a beaucoup voyagé avec la SIG. Dans les bus, tout ça, on était tout le temps scotché ensemble.
Exactement.
Du temps de Christian Munchaud, après il y avait d'autres entraîneurs, mais il y avait plein de gens. Il y avait Sigrist aussi, c'était le patron, non ? Il n'était pas président, lui ?
Jérôme Christ.
Jérôme, qui était mon voisin à un moment.
Oui, Jérôme Christ, qui était notre président.
Et alors, tu m'as dit tout à l'heure, comme le basket, tu m'as expliqué, c'est grâce à ton papa que tu es venu au basket. Hein. C'est lui qui t'a donné cette envie de jouer au basket.
Oui, tout à fait. Non seulement, en plus, après, il m'entraînait, donc... C'était des fois l'enfer, vous savez, quand votre père vous entraîne,
c'est vous
la cible, c'est vous qu'il faut vous soyez l'exemple.
Oui, c'est ça.
Et à un moment donné, c'était pesant, on ne se parlait pas dans la voiture en rentrant à l'entraînement des fois. Hein. Mais il était extrêmement exigeant. Alors,
bienveillant aussi, non, j'imagine, avec toi.
Bienveillant, mais fallait que...
Exigeant, c'est mieux.
Très exigeant, oui.
Alors, tu as passé par tous ces petits stades, hein, tu étais poussin, benjamin, minime, junior, senior, ancien, tu as fait tout ça, quoi.
J'utilise ce qu'on a souvent dans la vie, c'est l'expérience. Ce qu'on peut transmettre, c'est l'expérience. Moi, je suis passé justement par cette phase de formation où je suis allé à 15 ans... à l'INSEP, au Centre Viral à Paris.
Ah ouais.
T'as
quitté le cocon familial alors ?
C'est ça. Ouais, je suis parti.
T'étais pas trop triste, non ?
Non, pas du tout, parce que c'était vraiment ce que je voulais.
À 15 ans, il faut déjà avoir une sacrée maturité, hein, quand même. Pour.
Ouais, mais il fallait que je parte, parce que je pense que sinon, je n'aurais pas fait de carrière. Parce qu'il fallait que je sorte de mon contexte, les potes, la musique.
Ah ouais.
Et c'était à un moment donné. je pense, un bon choix. Et puis, à l'INSEP, on était très bien encadrés.
Et tu rentrais de temps en temps à Strasbourg ?
Rarement, parce qu'à l'époque, c'était 5h15.
Ah, il y avait la Micheline entre Strasbourg et Paris.
Ouais. C'était pas 1h45.
Ah, il n'y avait pas de TGV.
Ouais, donc on ne rentrait pas tous les week-ends, ça, c'est sûr. J'étais avec mon pote Thierry Bus pendant ces années-là. Et pendant 4 ans, je suis resté sur Paris, où après, j'étais au centre de formation de Racing Paris.
C'est sympa d'être à Paris quand on est jeune.
Ça, c'est ce qu'on pense. Ah, mais quand on n'a pas d'argent,
on
fait rien, en fait. Je ne sais pas, un jour, je me souviens à l'époque, quand j'étais encore au Racing Paris, on était sortis une ou deux fois, et puis nos potes nous disaient toujours qu'il fallait aller au bain-douche absolument. Et puis en fait, on n'a jamais vu le bain-douche. Hein. Si, on y allait au moins 4-5 fois, mais à chaque fois, on s'est fait recaler. Hein. Donc voilà, on a compris que bon, ce n'était pas de notre monde. Mais par contre, c'était des belles aventures de solidarité entre les potes. Parce que
on va en parler maintenant. On va mettre une petite musiquette, écoute voir. On va mettre du Bachung. Tu aimes bien Bachung comme moi. On va mettre une musique et on va parler de cette amitié. Tu vas voir.
Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes chances, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi.
Pardon, c'est pas Bachung, c'est Stéphane Hacher que j'aime beaucoup. Et en fait, il chante l'amitié. Alors, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a de l'amitié entre les joueurs sur ce parquet ? Ou est-ce que vous êtes tous des compétiteurs et chacun avance, malgré que ce soit un jeu collectif ? Alors, est-ce qu'il y a des amis là-dedans ?
Bah, écoutez, forcément, il y a des liens qui se créent. Mais on n'est pas obligé d'être super amis pour jouer bien au basket. Hein. Ouais. Mais en revanche, oui, on a forcément des gens avec qui on privilégie des liens forts. Mais en basket, c'est souvent ça. On se croise, on se revoit, on rencontre d'autres joueurs qu'on a rencontrés. Des fois, on se voit juste une ou deux fois dans l'année. Mais on se revoit comme si c'était la veille.
C'est un plaisir de se revoir. Quoi. Voilà.
C'est ça, parce qu'on vit quand même en tant que sportif de haut niveau, on partage des choses intenses.
Il y a de l'émotion, c'est énorme ce qu'il y a sur un terrain.
Ouais, on transpire ensemble, on souffre ensemble.
Ouais, c'est ça.
Ça crée forcément des choses.
Des liens, on
est obligé, quelque part, d'être ensemble, parce que sinon, ça...
Bah oui, vous vivez tout le temps
ça
ensemble.
Ça ne fonctionne pas, il n'y a pas
bien sûr. Et alors, parle-moi un petit peu de ce public de la SIG, que j'ai entendu encore l'autre fois, là. Mais c'est énorme, comme ils poussent les joueurs et tout, le cop derrière qui fait de la musique et qui chante et qui... est-ce que sur le terrain, ça, tu l'entends ? Est-ce que ça te fait pousser des ailes, ça ?
Ben, ça, c'est sûr que l'ambiance fait qu'à un moment donné, tu te transcendes. Il est évident que le public de la SIG est souvent, quand on est dans l'euphorie, ils sont derrière. Après, ils le sont un peu moins
quand
on est.
Vous avez perdu.
On n'a pas un jeu de qualité.
Ouais.
Mais bon, c'est un public de connaisseurs, donc forcément, ils sont aussi dans l'exigence. Et puis, l'Alsacien, il est. Il est straight, donc il attend d'être embarqué en fait. Il faut effectivement ce que le public aime, et le public strasbourgeois, ils aiment des gens qui se battent en fait, et ils aiment les gens qui sont solidaires, ils aiment les gens qui sont honnêtes, et c'est comme ça que je le perçois. Hein. C'est pas des fous furieux avec un cop qui est 40 minutes derrière nous.
D'accord, là tu parles de quand on gagne, c'est génial, tout le monde est là. Et quand il y a une défaite, comment tu vis ça sur le terrain quand il y a une défaite ? C'est comment après, quand on se revoit tous avec les joueurs, on se parle, on essaie d'évacuer cette défaite ? C'est le coach qui est là pour vous biberonner.
Mais tu parles quand j'étais joueur.
Ouais, quand
tu
étais joueur.
Quand j'étais joueur, c'est simple. Hein. Il y a les matchs qu'on perd et qu'on le perd avec panache. Et il y a les matchs où on perd et qu'on est passé à côté.
On n'est pas fier
de nous. Moi, j'ai toujours été un petit peu psychorigide. Donc, quand je perdais, j'allais mettre une souffrance le lendemain. J'allais en forêt, évacuer en footing.
Des fois, on courait ensemble.
Je me souviens, on se voyait
de temps en temps sur la digue à la Vansonneau. On faisait des footings.
Ouais, exactement.
Tu me disais toujours, cours pas sur le macadam, cours sur le côté dans le feuillage, là. T'auras moins mal au dos. Je me souviens très bien, on a fait ça quelques fois ensemble.
Sûrement,
tu courais comme un lapin. Moi, je te suivais avec la langue qui pendouillait.
Non, c'est les défaites, elles sont... ça fait partie du lot.
Du jeu, oui, bien sûr.
C'est sûr que quand on a fait une très mauvaise prestation et qu'on a perdu, ça se digère. En général, avec les potes, onzième, troisième mi-temps, sans hésitation. Je savais me remettre dans le bon sens. Et tout de suite le dimanche, en général, pour éliminer la veille.
Ouais,
et après, on repartait de plus belle toute la semaine.
D'accord. Alors, tu me parlais aussi d'un truc en 2012. Tu as une année très difficile. Tu me disais l'autre jour, et tu me l'avais parlé déjà il y a bien longtemps, tu es un miraculé. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu
On peut en parler. C'est vrai
parce que
tu
avais un problème de santé et puis
tu
avais un coup de moins bien. Aujourd'hui...
Là, c'était pas un coup de moins bien. Je peux en parler ouvertement. Hein. Oui, je suis un miraculé parce que en 2012, j'ai eu une cardiomyopathie dilatée. J'aurais pu y passer en mort subite sans aucun problème.
Ce qui n'a rien à voir avec le sport.
Non, ça n'avait rien à voir avec le sport. C'est plutôt, à l'époque, les chirurgiens et puis les médecins m'ont dit que c'est grâce à l'endurance de mon cœur,
que j'ai résisté à passer ce cap.
Et puis au fur et à mesure, ça a été long. Ça a été pendant un an une rééducation cardiaque. Et puis, ma foi,
aujourd'hui, tu peux refaire du sport.
Exactement.
Tu es devenu un homme normal à nouveau, comme tout le monde.
Tout à fait. Ouais. Voilà. Je sais que j'ai mes médicaments à vie depuis 12 ans.
Ça. Bon, écoute, ça, c'est pas gênant.
Mais pas du tout. Ça me permet de te sentir bien.
Tu es un homme heureux. Ça se sent.
Exactement.
Absolument. Puis je sais aussi que tu voyages énormément.
J'aimerais voyager plus.
Tu voyages parce que tu fais des échanges d'appartements ou de maisons. Tu m'avais expliqué.
C'est les étés, oui, forcément.
Tu étais en Australie.
J'étais en Australie. On a fait des belles destinations où forcément quand on visite ces endroits sous forme d'échanges, on vit dans les lieux. Et dans ces lieux-là, ça nous permet de découvrir comment vivent les gens. On n'est pas en vacances un centre, mais on vit les coutumes de ces gens-là.
De ces gens-là, c'est beau. Olivier, je te remercie. Tu reviendras pour une autre émission parce qu'on a presque passé le temps, les 29 minutes. En tout cas, un grand merci d'être venu. C'était très sympa de parler avec toi. Tu reviendras un jour avec grand plaisir, avec ton président, si tu veux.
Hein? Avec grand plaisir, André.
Merci beaucoup, Olivier, d'être venu jusqu'à chez nous.
Allez, ciao, ciao.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite